Tout de suite, c'est sur les docks. Irène Emelianenko, bonjour Irène.
Bonjour Hervé Gardette. Aujourd'hui, plongée dans ce qui constitue dans nos vies un blocage et parfois une totale panique, la peur. Enfant, la peur du loup ou des araignées. Adolescent, la peur de rougir, de trembler, de bafouiller. Et puis plus tard, des peurs aux noms étranges qui nous immobilisent, nous font transpirer, accélèrent notre pouls, tordent nos entrailles et déstabilisent notre vie. Avez-vous quelque chose qui ressemble à une phobie dans votre vie, Hervé ?
Bah, je peux bien vous le dire aujourd'hui, Irène, vous me faites un peu peur. Non mais c'est pas vrai, mais non, je vous adore. Non, j'ai pas vraiment de peur. Désolé.
Eh bien en tout cas sur notre site, après l'émission, vous pourrez écouter avec un casque ce que ressent un apiphobe face aux abeilles. Mais tout de suite, Fabienne Lemonnier interroge des phobiques. Richard, Solène, Jérôme, Corinne, Aurélie, Fanny et Climène nous racontent leurs angoisses. Et ce sont la psychologue Marie-Claude Dantan et le psychiatre Jean-Charles Pascal qui vont nous livrer quelques clés de compréhension.
Elle est plus forte que la raison, bien sûr. Elle part du ventre.
Elle est fatigante, elle est chiante, elle est prenante, elle me donne envie de pleurer.
Elle envahit les membres, la tête, les yeux, le cerveau.
Elle n'est pas normale. Je ne vois pas pourquoi moi je ressens ça et pas tout le monde.
Et voilà, elle rentre comme ça et on a l'impression que d'être trahi par elle parce qu'on sent qu'elle est en nous et que voilà... Et on se dit, elle m'a encore eu ce coup-ci, quoi. Je veux dire. Et donc, la prochaine fois, pour éviter de la voir, j'éviterai la situation.
J'ai lu plein de bouquins et ça passe pas. Je fais plein d'efforts pour la combattre et elle revient. C'est comme un monstre.
Elle m'empêche de vivre plus sereinement. Elle devrait pas exister.
C'est un handicap. C'est un handicap... que personne ne voit, que personne ne comprend, mais...
Elle est toujours là et toujours aux aguets de me sauter dessus, en quelque sorte.
Elle arrivait, comme si elle me prenait au piège, quoi. Je me dis, ça y est, elle m'a repris. Elle est vicieuse, elle est vicieuse.
Qu'est-ce que vous voudriez lui dire? Va-t'en, laisse-moi vivre un peu tranquille avant la fin de ma vie. Dégage.
Il faut pas se dire qu'on va l'écraser comme on écrase un insecte, par exemple. Il y a une mouche qui... voilà, et puis tout d'un coup, on la tue et terminé. Moi, je crois que ça marche pas. Je pense qu'il faut, au contraire, essayer de l'accepter, de l'apprivoiser. Voilà, moi, si j'ai un voisin qui m'embête, je vais pas prendre un fusil pour le tirer dessus. Je crois que c'est vraiment une fausse route que d'essayer de se dire moi, dans 3 mois, je vais être guéri.
Phobie. Par Fabienne Lemonnier, Léa Chevrier et François Test.
La tocophobie,
c'est la peur d'accoucher.
La phobophobie,
d'avoir peur.
La natidaéphobie,
d'être observé par un canard.
L'altazagoraphobie,
d'être oublié ou ignoré.
La laxophobie,
d'être pris de diarrhée impérieuse en public.
L'automisophobie,
c'est la peur d'être sale, de sentir mauvais.
La potophobie,
de boire.
L'oniophobie,
de dépenser son argent.
La psychopathophobie,
de devenir fou.
La kénophobie,
c'est la peur de l'obscurité.
L'anginophobie,
de l'étouffement.
L'apopato-diafoulatophobie,
c'est la peur de la constipation.
L'algophobie,
de la douleur.
L'oclophobie,
de la foule.
La sélénophobie,
de la lune.
La gymnophobie,
c'est la peur de la nudité.
La nyctophobie,
de la nuit.
La peignaphobie,
de la pauvreté.
L'amatophobie,
de la poussière.
L'autophobie,
de la solitude.
La glossophobie,
de parler en public.
La téléphonophobie,
de répondre au téléphone.
L'érotophobie,
c'est la peur de rougir en public.
Donc je m'appelle Richard, j'ai 50 ans, marié, sans enfant. Je suis accompagné par la peur depuis ma naissance, mais je commence à apprendre à à vivre avec, avec la difficulté que, à certains moments pour moi, sans que je puisse l'identifier, ça tombe et je replonge dans mes difficultés de peur et d'angoisse. Je m'occupe de la sécurité du travail dans une usine. Il y a au fond de moi une peur des autres que j'arrive à masquer dans une suradaptation. Donc je déploie d'énormes efforts pour ne rien laisser apparaître. Là, je vais déployer une certaine énergie pour m'exprimer et puis pour être le plus franc possible. Mais je sais que quand je vais sortir d'ici, une fois que j'aurai franchi quelques mètres en dehors de la maison, je vais plonger en énergie complètement et faire un pas devant l'autre, marcher, avancer, ça va être quelque chose de très difficile. Pour prendre une image, je porte une armure et puis elle devient de plus en plus lourde et je la supporte plus. Voilà. Physiquement, c'est la perte, je l'exprime sous la forme, la perte d'accès à la pensée claire. J'arrive plus à réfléchir. Je dois mobiliser toute mon attention pour prendre le bon chemin. Concrètement, quand je suis dans les transports, je me trompe de route, je prends la mauvaise rue, je sais plus où je dois aller. Les symptômes physiques d'épuisement, de cœur qui bat très vite, de chaleur, de froid, la lumière est agressive, le bruit est agressif, le téléphone qui sonne est agressif, voilà. Il n'y a plus rien qui marche, c'est le vide.
Peur numéro 82.
J'ai peur qu'à mon enterrement, personne n'ait rien à raconter.
Je suis mort.
Ni rien de gentil à dire sur moi.
Je suis bien mort. S'il vous plaît, ne pleurez pas sur mon sort.
Ce qui est en moi, c'est la peur qui est présente et le fait de ne pas se sentir au même niveau que les autres. Je suis toujours attentif à ce que je peux faire pour faire plaisir en ne me plaçant pas en situation d'égalité dans la relation.
Qu'est-ce qui vous est arrivé de faire de plus incroyable pour éviter une rencontre, éviter une confrontation?
Tout ce qu'on peut faire pour rater un rendez-vous, pour rater une rencontre, rater une relation. Et inversement, être capable de vivre très longtemps dans quelque chose de totalement insatisfaisant. Étant pas affirmé, j'accepte des choses pendant extrêmement longtemps, en termes professionnels, en termes relationnels. Je pense que c'est lié à certaines incompréhensions dans mes relations avec mes parents. J'ai pas été élevé dans un milieu où on exprimait ce qu'on ressentait. Voilà. Et donc ça fait partie de l'histoire. Donc.
Peur numéro 9.
Parfois je cours, et j'attrape le train in extremis. Puis, aussitôt, je me mets à penser que je devais le rater et qu'il va se crasher avant l'arrêt suivant.
Je dirais que la phobie, c'est une peur sans objet apparent, d'intensité variable, avec laquelle on peut parfois tout à fait cohabiter et avoir une vie sociale satisfaisante, parfois suffisamment serrée pour devenir un réel problème. Jean-Charles Pascal, psychiatre, consultant au Centre Janvière, à Suresnes.
Peur numéro 27.
Quand j'utilise un coton-tige, j'ai peur que quelqu'un ouvre la porte de la salle de bain et enfonce le coton-tige dans mon cerveau. Alors, quand je me nettoie les oreilles, je ferme la porte à clé et je me mets dans la baignoire tout habillée.
La phobie, c'est ce qui est le plus répandu comme manifestation. Les phobies ne sont pas toutes forcément pathologiques. On verra tout à l'heure qu'on vit au milieu d'un bain de phobies. Les phobies ne posent problème que quand elles sont serrées et contraignantes. Comme beaucoup de mécanismes névrotiques, ils ne sont pathologiques que quand ils deviennent effectivement très très forts et quand ils empêchent le sujet de vivre une vie normale. Pour un exemple, si la phobie c'est une peur sans objet, c'est la définition de la phobie, il y a énormément de peurs sans objet. On nous dit tout le temps que, par exemple, prendre l'avion est beaucoup plus sûr que prendre sa voiture. Beaucoup plus de gens craignent de prendre l'avion qu'ils ont de prendre leur voiture. Donc la raison ne joue pas. Ne pas aimer prendre l'avion, on peut dire qu'il y a une petite phobie de l'avion, très répandue. Ça n'a rien à voir avec un phénomène pathologique contraignant comme l'impossibilité de passer un pont quand on conduit une voiture. Vous voyez, c'est donc c'est un problème de degré. Comme les obsessions, comme tous les mécanismes, comme les troubles de l'humeur, tout n'est qu'une question d'intensité.
Peur numéro 73.
Quand j'étais petite, ma mère m'a dit que si je continuais à faire pipi au lit, des vers sortiraient de mon matelas et me mangeraient toute crue.
J'ai peur des manteaux en fourrure, j'ai peur de tous ces renards qu'on met autour du cou. J'ai peur des gros repas de Noël où on s'amuse à mettre l'animal entier sur la table. J'ai peur des boucheries, j'ai peur des salles nature morte dans les musées. J'ai peur de la salle égyptienne dans les musées aussi. Et j'ai peur de tous les magasins de taxidermie. J'ai peur aussi beaucoup de la rue, toujours la peur de trouver un rat ou un pigeon mort. Et j'ai peur tout bêtement de la forêt parce que comme c'est là où il y a le plus d'animaux et de possibilités de cadavres dans ma tête... J'en ai très peur.
Peur numéro 38.
J'ai peur qu'après ma mort, tous mes sens continuent de fonctionner. Et je ne sais pas si l'embaumement serait pire que la crémation.
Moi, je m'appelle Fanny, j'ai 21 ans et j'ai la phobie des cadavres, d'un animal empaillé au poulet rôti. J'ai le souvenir très net d'être tombée dans un cadavre de renard en putréfaction. Enfin, j'ai le souvenir de tomber dedans et d'avoir les bras enfoncés jusqu'aux épaules, de voir des fourmis rentrer dans le globe oculaire et d'avoir du mal à m'en extirper à cause des tripes, des intestins, enfin de tout ce qu'il y a dans le ventre qui... où mes bras étaient coincés.
Et ça se finit comment ?
Ça se finit en crise de larmes, crise de panique et blackout. Enfin, un trou noir après. Voilà, j'ai les images, les sensations, mais mon père m'assure que cette scène n'a jamais eu lieu, du coup, on ne sait pas vraiment.
Marie-Claude Dantan, psychologue.
Alors, une attaque de panique, c'est ce que Freud appelait la tempête physiologique. La personne, brutalement, se sent face à un danger énorme et sa peur se transforme en frayeur. Moyennant quoi, la personne donc est prise de tremblement, elle est le cœur qui bat extrêmement vite, elle est dans une situation de stress extrême avec toutes les manifestations, la sueur, la tension artérielle qui monte, et en plus, la personne croit qu'elle va mourir puisqu'elle va avoir une attaque ou qu'elle va devenir folle. Donc c'est horrible. C'est sans danger. Mais c'est très difficile à vivre. Et le problème, quand on en a eu une attaque de panique, c'est qu'on a peur que de nouveau, il y ait quelque chose qui déclenche cette attaque de panique. D'où la phobie par rapport à un objet.
Le moment où j'ai les plus grandes crises de panique, c'est quand je m'y attends pas le moins du monde. Et du coup, chaque fois que je vois un pigeon écrasé dans la rue, c'est le, c'est hurlement, changement de trottoir et tout le monde me recherche parce que j'ai disparu. Enfin voilà, quand j'arrive pas à prévoir qui sera peut-être là, c'est vraiment la panique. Mais c'est vrai que j'ai la chance que j'ai la phobie de quelque chose qui ne bouge pas. Donc si j'ai été prévenue à l'avance de où c'est, je tourne le dos, je fais comme s'il n'était pas là.
Physiquement, qu'est-ce qui se passe ?
Physiquement, c'est comme si j'étais attirée à un tel point que ça en devient douloureux et énorme cri dans ma tête et sensation de chaleur et transpiration. Comme si mes pensées se taisaient et laissaient place à un grand cri. Enfin, j'arrive plus à réfléchir, c'est juste un son continu dans ma tête. La viande, du coup, ça va dépendre parce que le poulet rôti, je reconnais un poulet, ça m'effraie, ça me fait peur. Mais par contre, un steak haché, comme je reconnais pas vraiment la vache dedans, ça me perturbe pas plus que ça. Ça me dégoûte, mais ça me dérange pas d'en voir Ça m'est arrivé d'en manipuler. Mais manger, non, je suis végétarienne depuis mon enfance. Une image, ça va dépendre. Et ça va aussi dépendre des périodes. Il y a des moments où cette phobie est tellement forte que même les statues, ça me repousse un peu. Enfin, j'aime pas, ça va pas pour moi. Sur les dessins, s'ils sont très bien faits, enfin, je me souviens qu'en ayant vu les travaux, les croquis de Géricault pour le radeau de la Méduse, j'avais dû sortir de classe parce que je me sentais trop mal. Et après, les photos, pour moi, c'est impossible. Donc, dans les films, je dois souvent faire attention et réussir à prévoir à l'avance quand est-ce qu'il y a un cadavre qui va apparaître à l'écran. Justement, ben, sur certains trajets, savoir sur quel trottoir je dois passer, savoir que dans tel quartier, il y a souvent des pigeons qui sont écrasés, enfin, c'est vraiment l'éviter, éviter d'y aller. Chaque fois, quand j'entre chez quelqu'un, lui demander s'il y a un cadavre dedans, pour qu'il mette une couverture dessus ou quelque chose, quoi. Par contre, le plus difficile, c'est quand je suis dans un métro et qu'il y a un manteau en fourrure. Là, ma seule solution, c'est changer de wagon. En essayant de rester calme. Et finalement, je commence à m'en accommoder, enfin, à avoir mes habitudes, de comment éviter. Enfin, c'est la raison pour laquelle je porte constamment un chapeau sur la tête, c'est que sinon, je peux le tourner du côté où il y a quelque chose qui me dérange. Je le penche comme ça, et s'il y a une boucherie, il suffit que je le tienne comme ça, et on croit que c'est un effet de style, alors qu'en fait, je suis en train d'essayer d'éviter la boucherie. C'est un peu plus coquet que de passer avec les mains comme ça, sur le côté, en paravent.
Qu'est-ce qui fait qu'un objet est pris comme objet phobique, hein, ça, bon. Alors, y en a qui sont des classiques. Les souris, les serpents, les insectes et les araignées particulièrement. Hein. Alors, il y a une fixation. Pourquoi ce sont des objets qui sont hyper représentés? Pourquoi ils ont été un petit peu, au fond, choisis par les phobiques? Il y a pas mal de mécanismes. C'est souvent ce qui est isolé au niveau des animaux. C'est leur capacité à s'introduire qui a pu être représentée. En dehors du fait qu'effectivement, le serpent et l'araignée sont, dans une représentation esthétique habituelle, plutôt repérés comme laids et comme repoussants. C'est beaucoup moins mystérieux que ma fameuse phobie de passer un pont, par exemple. Toutes les phobies qui sont hyper représentées et hyper partagées posent pas tellement de problèmes sur le plan de la question psychopathologique. Celles qui posent question, ce sont celles qui sont justement très originales et très ciblées.
La sténophobie,
c'est la peur de s'évanouir.
La blutophobie,
de se baigner.
La dysabiliophobie,
de se déshabiller devant quelqu'un.
L'angrophobie,
de se mettre en colère.
La philophobie,
c'est la peur de tomber amoureux.
La gérascophobie,
de vieillir.
L'apiphobie,
des abeilles.
La dysmorphophobie,
des anomalies physiques.
La dacillophobie,
la peur des bactéries.
La dartrophobie,
des boutons sur la peau.
La mycophobie,
des champignons.
L'élourophobie,
des chats.
La cynophobie,
des chiens.
L'arythmophobie,
des chiffres.
La coulrophobie,
des clowns.
L'aérophobie,
c'est la peur des courants d'air.
La mascaphobie,
des masques.
L'hippopotomonstroskipédaliophobie,
la peur des mots trop longs.
L'acmophobie,
des objets pointus.
L'ornithophobie,
des oiseaux.
La galinophobie,
des poules.
La trichophobie,
des poils et de la pilosité.
L'acrophobie,
c'est la peur du vide.
En fait, mes parents habitaient dans un village où il fallait passer sur une route qui passe au-dessus de la voie de chemin de fer, parce que la voie de chemin de fer est très encaissée. Donc il fallait passer sur ce pont pour pouvoir accéder au village. Et j'arrivais à passer sur ce pont dont la barrière était à l'époque plutôt douteuse. Et si jamais je me trouvais à passer, quand le train passait dessous et faisait trembler tout ce qu'il y avait autour. Là, pour moi, c'était la panique. La panique, c'est j'entends le train arriver, je cours pour arriver de l'autre côté et ne pas être dessus quand le train va passer. Tu ne peux pas rester là, tu vas être happé par quelque chose qui va te faire passer par-dessus la barrière et te faire tomber dans le vide. Quel âge j'avais, je ne sais pas, peut-être 8 ans, 10 ans. Je m'arrêtais au début du pont, je tendais les oreilles pour écouter si je n'entendais pas le train arriver de loin, et à ce moment-là, je traversais. Donc j'anticipais déjà à l'époque. Je m'appelle Corinne Taglione, j'ai 52 ans, je suis sujette au vertige depuis mon enfance.
Je me souviens d'un jeune et brillant avocat qui ambitionnait d'être à la tête de la police.
J'ai dû y renoncer.
Pourquoi ?
À cause de cette peur du vide que j'ai, cette acrophobie. Je me réveille la nuit, je vois ce malheureux tomber du toit pendant que j'essaie de l'atteindre.
Était-ce ta faute?
Non, bien entendu.
Johnny, les médecins t'ont expliqué que tu...
Je sais. J'ai de l'acrophobie, ce qui me donne des vertiges chaque fois que je sens le vide.
C'est les yeux qui disent au cerveau, ouais, dis donc, t'es haut, hein?
Fais-toi une raison.
Ah oui, tu commences à être vraiment haut, hein?
Pourquoi non?
Et si tu te mets trop près, tu pourrais tomber. Et là, à partir de ce moment-là, le cerveau déclenche une espèce de panique qui est assez difficile à décrire. Souvent, c'est les jambes qui... La sensation que les jambes ne vont plus me porter, la sensation de plus pouvoir être droite, alors que c'est pas du tout ce qui se passe. C'est le cerveau qui fabrique de toutes pièces. Et puis la respiration qui devient beaucoup plus courte. Et donc pour contrer ça, enfin contrer, je dirais, pour améliorer, une des méthodes consiste à respirer.
J'ai le vertige. Non, n'insistez pas. Voyez comme je me fige. Là-haut, j'ai l'appel du vide. Non, n'insistez pas, je vous en prie. Voyez comme je suis livide.
Une des particularités de ce phénomène de vertige, c'est que lorsqu'on bloque à un endroit, ensuite il est très difficile, en fait on y arrive, mais on met beaucoup de temps à arriver à repasser à cet endroit-là. Donc il faut éviter de bloquer. Ou certaines fois, quand je n'ai pas le choix et que je dois passer à un endroit, parce que si je ne prends pas la passerelle, par exemple, qui passe au-dessus de la 4 voies, je vais être obligée de reprendre un métro ou de faire un très grand détour. Dans ce cas-là, je demande à un passant, si je peux marcher à côté de lui ou à côté d'elle. La plupart du temps, les gens comprennent. Je leur explique, j'ai le vertige, j'ai besoin d'être assuré, donc de marcher à côté de vous. Éventuellement, je risque de m'agripper à votre bras à un moment donné. Et ça se passe toujours très bien. J'ai jamais eu personne qui m'a refusé, sauf personne qui est comme moi, qui a le vertige. Un autre cas de figure qui est pénible, c'est les escaliers à claire-voie, c'est-à-dire les escaliers qui n'ont pas de contre-marche, où on voit au travers. Et là, très rapidement, j'ai cette sensation de vertige. Quelquefois, j'y arrive, quelquefois, c'est difficile. Justement, parce qu'on a cette vision entre les marches.
Il n'y aurait qu'un choc émotionnel capable de te guérir, d'après lui. Je ne pense pas que tu aies l'intention de replonger dans toi pour le vérifier.
J'espère guérir sans ça.
Et comment ?
Eh bien, j'ai une théorie. Le tout est de m'habituer à l'altitude, seulement par degrés, un peu à la fois. Tout doucement, comme ça, et progressivement. Je vais te montrer ce que je veux dire. Regarde. Là, excellent test. Je regarde au-dessus de moi, je regarde en bas. Je regarde au-dessus de moi et je regarde en...
La voix, elle va commencer à se manifester à partir du moment où j'ai un doute. Elle va me dire, t'es sûr, t'es pas sûr, tu vas être bien, tu vas pas bloquer. Donc elle va amplifier le phénomène quelque part. Quelquefois, ça m'oblige à, par exemple, si c'est une passerelle assez large, à marcher au milieu et à obliger les gens qui viennent en face à se décaler par rapport à moi. Puis il y a toujours les gens qui disent « Ah, mais il faut pas regarder en bas, faut pas faire ci, faut pas faire ça », ce qui part d'une bonne intention, hein. Mais tant mieux pour eux, en fait, ils ne comprennent pas comment se manifeste le phénomène. Et là, ça va être c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, la sensation de vertige, c'est-à-dire cette sensation de plus être stable sur ses pieds. Il y a un moment où le blocage va venir en fait de cette voix qui va dire « Fais attention, tu vas t'approcher du vide et tu vas tomber dedans ». Et c'est à partir de ce moment-là où je bloque. Cette attirance du vide, cet appel du vide, entre guillemets, oui, c'est la mort, parce que si c'est haut et que c'est dur en bas, il n'y a pas beaucoup d'issue autre que la mort.
Peur numéro 99.
À chaque fois que j'emprunte l'ascenseur, j'ai peur en sortant qu'il tombe et me coupe en deux.
Il faut savoir qu'on a des mécanismes de défense qui peuvent nous protéger quand on vit dans des situations psychologiques difficiles. Et un de ces mécanismes de défense, c'est de déplacer l'objet de la peur. Et là, quand une personne a une anxiété qui se généralise un peu sur tous les objets, c'est ce qu'on appelle la maladie du souci, l'anxiété, la situation devient invivable. Or, la personnalité, un moyen de défense, c'est de focaliser toutes les peurs qu'on a sur un seul objet extérieur, libérant l'anxiété dans la vie quotidienne.
Peur numéro 15.
Tard le soir, quand je suis seule, j'entends des voix très douces qui m'appellent. J'ai peur que ma vie soit un rêve et d'être en réalité dans le coma et que les voix soient celles de ma famille essayant de me réveiller.
J'ai peur quand même pas, j'ai peur d'être seule, j'ai peur d'être nulle, j'ai peur de pas être intéressante, j'ai peur quand même pas. Voilà, je dois avoir trop besoin d'amour, j'en sais rien. Je m'appelle Aurélie, donc j'ai 58 ans et... Bah, je suis pas bien depuis toujours, quoi. Depuis que j'ai pris conscience de moi, enfin, je suis toujours pas guérie. Donc, ça a commencé quand j'étais toute petite. J'étais très timide et j'étais dans la cour. C'était à l'école primaire. J'étais toute seule dans mon coin. D'avoir été dans des cabinets de filles, la porte ne fermait pas, on m'a ouvert la porte pendant que j'étais aux toilettes. On se moquait de moi, j'avais un parapluie en coton rose avec des pois blancs, on se moquait de moi. Des grosses chaussettes sous mes collants, on se moquait de moi. Voilà. Et à côté de ça, j'étais la chouchoute de la directrice, je travaillais bien. Et ça me réconfortait. Voilà. Mais avec les copines, je me souviens pas d'avoir eu des copines. Alors je suis orpheline, enfin j'ai perdu mon père quand j'avais un an et demi. Maman, ouais, je sais pas ce qu'elle disait, elle était mal, elle était pas très à l'aise non plus dans la société, très assez timide, assez mal à l'aise aussi. Donc, je sais pas, puis dans la famille, on me disait, j'avais un frère qui prenait l'ascendant, enfin qui servait de père, quoi. Maman se reposait un peu sur lui et me disait que j'étais conne. Alors, voilà, donc ça s'est bien resté dans ma tête, gravé dans ma tête. Parce que j'étais très scolaire et c'est vrai que je m'intéressais pas à ce qui se passait dans le monde, je m'intéressais pas. Et bon, maintenant je m'intéresse à plein de trucs, mais voilà, ça a dû me rester gravé dans ma tête que j'étais conne. Enfin, je me sens toujours bête, toujours idiote. Et je fais plein d'efforts pour faire plaisir aux gens, pour être aimée, pour être reconnue. J'ai besoin de reconnaissance quand je fais quelque chose. Voilà, j'ai toujours besoin qu'on me sourie, qu'on me dise que c'est bien, pour savoir que je fais bien les choses. Si on me le dit pas, si je le vois pas, je me dis je fais pas bien, c'est pas bien, on va pas m'aimer. Par exemple, j'ose pas dire bonjour aux gens que je connais pas, parce que il faut pas déranger, parce que. Par contre, je réponds hein, quand on me dit bonjour, je réponds. J'ai pas de problème pour répondre. Mais de moi-même, j'ose pas dire bonjour aux gens. Ils sont fermés. J'ose pas les déranger dans leurs pensées. Si ils sont à deux et que je les connais, mais qu'ils se parlent entre eux, je veux pas les déranger dans leur dialogue. J'ai peur de déranger les gens. Moi, ça me travaille, ça me mine, ça me.
Il y a les timides qui font avec, hein, et puis, mais bon, qui peuvent quand même adresser la parole à quelqu'un, aller voir un pharmacien et avoir une ordonnance et savoir la présenter, rentrer dans un salon où il y a des personnes et ne pas s'isoler tout de suite. Et puis, il y a les grandes phobies sociales avec rougeur, état de panique, angoisse et fuite. La phobie sociale est une des raisons importantes de l'alcoolisme, hein, puisque donc le malade alcoolique a repéré que quand il a commencé à boire 2-3 verres, sa phobie sociale s'estompe et que là, il peut parler, aller vers quelqu'un, entamer une conversation, se sentir brillant, alors que sinon, il peut rien dire.
Ce que j'aime pas du tout, c'est peut-être pas la pire, mais ce que j'aime pas du tout, c'est les silences dans une conversation. Je suis hyper mal à l'aise, je cherche un sujet de conversation. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Quand il y a un silence, je me dis, je suis pas intéressante. Enfin, elle est pas bien avec moi, cette personne, je dis rien. Je cherche un sujet à toute vitesse. Tout le temps, je me dis de quoi on va parler. Si je vais avec cette personne, de quoi on va parler. Je prépare mes sujets de conversation. C'est horrible. Ah ouais, c'est toute ma vie. C'est pesant, c'est fatigant, quoi. Dans ma famille intime, mari-enfant, non. Heureusement, ça me repose, parce que c'est l'horreur. Il y a quelqu'un, un collègue, il me disait toujours des petits mots gentils. Ça me faisait plaisir. Et puis après, je le croisais. Quand on était à plusieurs, il disait bonjour aux autres et à peine à moi. Quand il me voit tout seul, il me parlait. Et quand il me voyait avec d'autres, bah, il parlait aux autres et pas à moi. Je me dis, pourquoi ? Qu'est-ce que je suis ? Je suis pas intéressante. Alors, qu'est-ce que c'est ? D'habitude, il me parle gentiment quand il me voit toute seule. Et puis là, j'existe plus. Je comprends pas. J'ai pas encore compris. J'ai presque envie de pleurer, même. J'ai envie de le dire. Pourquoi quand il me voit toute seule, il me parle et quand il y en a d'autres, il parle aux autres et pas à moi. Je comprends pas.
Peur numéro 20.
Quand j'étais petite, j'avais peur que mes poupées me regardent dormir. Alors je recouvrais leur berceau d'un drap et d'une pile de livres pour qu'elles ne s'échappent pas.
Dans un rêve que j'ai fait, je suis dans une salle, il fait tout noir. Et je suis dans un coin, je sais pas trop ce qui se passe. Et il y a une toute petite fenêtre en haut à droite. Et là, je vois qu'il y a une porte en fait en face de moi. Et du coup, je commence un peu à paniquer parce que je commence à entendre des bruits. Des bruits d'ailes, des bruits de... des recoulements, des choses comme ça, et du coup je commence vraiment à me sentir pas très à l'aise, à pas savoir trop ce qui va se passer, et tout d'un coup la porte s'ouvre et là une envolée de pigeons, ils arrivent tous sur moi et moi je suis bloquée, je peux plus rien faire, je crie et j'arrive plus à bouger et je suis coincée en fait, je suis enfermée, je peux rien faire. Ils bloquent la sortie et je pense que je vais mourir. Écrasée par les pigeons, ils me picorent un peu la tête en fait. C'est un peu, ils me picorent le corps en fait, entièrement. Et c'est très violent.
Je m'appelle Climène, j'ai 23 ans et j'ai la phobie des pigeons. Quand j'étais petite, j'ai été attaquée par un dindon, enfin pourchassée plutôt, et un coq. Et du coup, depuis ce moment-là, j'ai commencé un peu à détester en fait tous les animaux à plumes en général. Quand je marche dans la rue, si je vois un pigeon sur le même trottoir que moi, généralement je traverse. Si j'entends un son de pigeon, par exemple, si je dors et que j'entends un son de pigeon ou autre, je me réveille tout de suite en sursaut et je peux plus m'endormir ni me relaxer, on va dire. On va dire que ça me crispe beaucoup, oui. Ça me met très mal à l'aise. Quand j'étais petite, j'ai eu un poussin chez moi qui a grandi. Et au moment où il a eu les crêtes, il a commencé à me faire peur, en fait. Au moment où il a commencé à vraiment être... à ressembler à vraiment un coq, on l'a donné parce que je pouvais me courir après. Voilà. Ça, je sais pas, en fait. C'est peut-être la crête... Je crois que ce qui me fait peur, c'est déjà leur aspect, parce que je trouve que ce sont des animaux très laids. Leurs yeux, que je trouve horribles. Et bref, les plumes, tout ça. Mais je pense que oui, c'est leur aspect en général. Ça m'horripile, en fait. Et ça me, voilà. J'en mange de temps en temps. Ça me dégoûte un peu vite, en fait.
L'imagination, certains pourraient dire, c'est un peu l'ennemi du phobique, justement. C'est-à-dire que c'est parce qu'il projette énormément de choses sur ce qui peut être très banal. Le phobique peut être désarmé devant des situations tout à fait banales. Tout à l'heure, je vais prendre le train, aller dans le supermarché, traverser une place sans être obligé de longer les murs. Pour ne jamais être plus loin que de 30 mètres d'un mur, être obligé d'aller au cinéma et de prendre uniquement des places où on puisse tout de suite partir et être au milieu d'une rangée, c'est intenable. C'est une projection constante, au fond, de mise en situation d'un malaise possible. Parce que ce que craint le phobique, c'est au fond d'affronter la situation phobogène et d'avoir un malaise.
Alors, je suis dans une voiture. Il me semble que mes parents viennent de partir, en fait. Et je suis assise toute seule et les portes sont fermées. Mais par contre, les fenêtres sont grandes ouvertes. Et tout d'un coup, il y a un énorme dindon qui surgit par la fenêtre et qui essaye de rentrer dans la voiture pour pouvoir me dévorer. Et du coup, je commence à hurler et j'essaye de fermer la fenêtre le plus rapidement possible. C'est une fenêtre qui se remonte manuellement. Donc ça prend beaucoup plus de temps. Et là, le dindon vient de plus en plus sur moi. Et enfin, j'arrive à monter la fenêtre jusqu'au cou. Et là, tout se bloque, en fait. Je n'arrive plus à monter la fenêtre. Il est toujours là et je suis quand même bloquée dans une voiture avec la tête d'un dindon qui essaye de me manger, quoi.
La pédiophobie,
c'est la peur des poupées.
La rétiphobie.
Des rides.
La tripophobie.
Des trous.
La taphophobie.
C'est la peur des tombes ou d'être enterré vivant.
L'hexacosio, hexaconta, hexaphobie.
C'est la peur du chiffre 666.
La xénophobie.
La peur des étrangers.
La phasmophobie.
Des fantômes.
La nosophobie.
Des maladies.
L'hémétophobie.
C'est la peur du vomi.
La socopophobie.
Du regard des autres.
La nécrophobie.
Des cadavres.
La pantophobie.
Peur de tout.
Je m'appelle Solène, J'ai 20 ans et je suis phobique du vomi. Donc, et suite à ça, j'ai fait des crises de panique agoraphobique. Ma première crise, c'était donc il y a à peu près un an, un peu moins d'un an. J'étais dans le métro, je rentrais de mes cours comme d'habitude. Pas de problème particulier par rapport à d'habitude, un jour comme les autres. Et d'un coup, dans le métro, je sais pas, j'ai commencé à... Physiquement, c'était vraiment... J'ai ressenti des picotements, une grande bouffée de chaleur. Et vraiment, mon esprit... presque l'esprit qui sort du corps, un truc un peu... je vais m'évanouir, mais j'avais une boule très forte au niveau de l'estomac, comme si j'allais vomir, quoi. Donc, suite à ça, je suis sortie du métro et je suis rentrée à pied. Enfin, je me suis pas inquiétée plus que ça. Je me suis dit juste que c'était un peu de fatigue passagère. Et après, quand j'en ai fait d'autres, j'ai commencé à plus m'inquiéter. Et c'est là où j'ai été voir une thérapeute des troubles comportementaux qui m'a aidée à faire face à ça.
TCC ne s'intéresse pas au pourquoi. Donc TCC s'intéresse aux symptômes. Donc on ne rentre pas dans un long parcours du pourquoi en essayant d'isoler une crainte infantile, une situation conflictuelle, des éléments liés à l'enfance ou à la toute petite enfance. Et TCC ne s'intéresse absolument pas à ça. Il y a le symptôme, le ressenti, l'objectif. Et il semble bien que pour ce type de problème, et en particulier ces phobies serrées et invalidantes, les résultats soient satisfaisants. Et les grandes critiques qui ont été faites, c'était de dire qu'au fond, le traitement par TCC des phobies allait déplacer. C'est-à-dire qu'on allait améliorer notre personne qui n'arrive pas à passer un pont. Je prends cet exemple-là parce que ça m'avait beaucoup frappé à l'époque. Cette phobie isolée sur un pont, et puis que donc elle pourra passer un pont, mais elle ne pourra plus rentrer dans une pièce où il y a quatre personnes. Donc ça ne s'est pas vérifié. Il ne s'est pas vérifié que si on traite une phobie sur un plan uniquement cognitif, avec objectif et comment on pourrait dire, apprentissage de la maîtrise de la phobie, phobie du métro, accompagnement du patient dans le métro avec un objectif. D'abord, on rentre dans le métro, puis après, on prend une rampe, puis après, on fait un changement, etc. Il semble que ce soit assez efficace. Avec probablement nécessité d'y revenir. Ce n'est pas efficace une fois pour toutes.
Alors, il y a actuellement un combat entre psychanalyse et TCC. Très souvent, on en parle. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de combat à avoir. Tout dépend, je dirais, de ce qu'attend la personne. Comme disait un de mes amis qui est psychiatre, tout est bon pour un patient du moment que ça marche. Mais il faut trouver la méthode adaptée. Le problème de la psychanalyse aujourd'hui, c'est que ça dure très longtemps. Et certains problèmes... ont besoin d'être réglés pour permettre à la personne de continuer à vivre. Moi, je me suis occupée, par exemple, de beaucoup de personnes qui avaient une activité professionnelle et s'ils ne prenaient pas l'avion, eh bien, ils perdaient leur place. Et donc, la situation est grave. Et les thérapies comportementales et cognitives permettent de se focaliser sur le problème de l'avion, ce qui n'empêche pas qu'on puisse suivre une thérapie et une psychanalyse à côté. Les deux sont tout à fait compatibles, mais en tout cas, le problème de l'avion est réglé très rapidement.
Je ne me rappelle pas d'un souvenir traumatique en soi, mais quand j'étais petite, je vomissais beaucoup. Enfin, beaucoup non, mais je veux dire, j'étais souvent malade. Et j'ai beaucoup de souvenirs de moi, petite malade, enfin, en tout cas en train de vomir, et peut-être c'est juste ce souvenir-là. Mais j'ai pas de souvenir, en tout cas traumatique vraiment. Peut-être juste une fois, j'ai vomi sans m'en rendre compte dans mon sommeil. Et ça, je sais que c'est un élément en tout cas qui m'a marqué. Donc du coup, même maintenant, je sais que quand je m'endors, je peux avoir peur de pas me réveiller pour aller aux toilettes si je dois vomir. Donc il suffit que je me couche avec un mal de ventre et enfin, j'ai des petits problèmes pour dormir, donc des fois je prends une petite pastille pour m'endormir. Et quand j'ai mal au ventre, je sais que je la prends pas. Parce que je me dis, si je dois vomir, je pourrais pas me réveiller.
le visionnage très précoce de certains films dits pour enfants, si la personne qui est à côté, peut effectivement être à l'origine d'une manifestation phobique isolée. Au fond, une crainte affrontée seule, il est potentiellement possible qu'elle puisse être à l'origine d'un mécanisme phobique. Voilà. S'il y a personne à côté qui peut, au fond, désamorcer la charge. Mais c'est tellement complexe, et c'est tellement... Les manifestations phobiques qui serrées apparaissent dans des histoires tellement différentes qu'il n'est pas possible d'avoir un chemin logique en disant, voilà, ce qu'il va faire. On définit des personnalités phobiques, d'autant que les mécanismes phobiques sont parfois liés à des mécanismes de défense obsessionnels. Alors on arrive vers les fameux mécanismes phobo-obsessionnels où le phobique se défend par des rituels ou par des objets. Le doudou est un des premiers objets contraphobiques que le petit invente. Mais le grand phobique, certains donc ont en plus associé des mécanismes de défense obsessionnels, c'est-à-dire que je vois un couteau, je pense que je pourrais mal l'utiliser et faire mal ou me faire mal. Donc, pour vaincre cette phobie obsédante, je dois faire 3 fois le tour de la tête de la cuisine ou caresser 4 fois chaque coin, le coin de la cuisine. Donc, alors là, on rentre dans des mécanismes pathologiques lourds et difficiles et extrêmement douloureux.
Peur numéro 32.
Quand j'étais enfant, ma grand-mère me disait que chacun de nous disposait d'un nombre limité de respirations. Personne ne connaît son quota, mais quand on en vient à bout, on meurt. Alors, je passe mon temps à respirer lentement, dans l'espoir que chacune d'entre elles dure plus longtemps.
Quand je sors, que ce soit en soirée ou même si je prends le métro ou si je suis à l'extérieur de chez moi, j'analyse beaucoup ce qui se passe autour de moi. Il suffit qu'il y ait une personne qui soit tête baissée, les mains sur la tête. Je vais me dire la personne se sent mal. Enfin, si je vois que la personne a l'air de sentir pas bien, je vais changer de wagon, soit je vais sortir du métro carrément. Ça m'est déjà arrivé d'avoir la sensation que la personne à côté de moi allait vraiment vomir et je suis partie du métro et je suis rentrée à pied. Après, pareil, en soirée, même si c'est des amis à moi, je vais beaucoup analyser si la personne elle boit, si la personne elle boit pas. Physiquement, s'il y a quelque chose qui me fait penser que la personne va vomir, je vais tout de suite partir à l'opposé de là où est cette personne. De savoir que quelqu'un va vomir en public, je peux partir, mais si c'est moi, c'est plus difficile à gérer. Et c'est pour ça que je pense que ça a fait une crise un peu plus importante, quoi, par rapport à ma phobie d'avant. Une fois, donc, j'étais avec un garçon, il m'avait invité chez lui, donc on était tous les deux. Et voilà, on a fait notre affaire et qu'au bout d'un moment, je suis dans la salle de bain et j'entends quelqu'un vomir. Donc je n'osais pas sortir de la salle de bain, j'avais peur que ça soit lui vraiment qui ait vomi et ça pouvait être que lui, donc j'étais un peu face au problème. Et donc c'était bien lui qui avait vomi, donc je sors de la salle de bain et là c'était clairement impossible. J'ai ressenti un peu du dégoût, de la honte. Enfin, ce sentiment-là que je peux ressentir quand quelqu'un vomit ou voilà. Et du coup, bah, clairement, je suis partie le lendemain. Je ne l'ai pas embrassé rien et je ne lui ai plus jamais parlé. C'est ouais, aussi le mouvement du corps, le fait que ça sorte par la bouche. Pour moi, c'est peut-être ça aussi, le fait que ça sorte par un endroit où c'est moins facile de cacher, je ne sais pas. C'est de la honte vraiment... Je pense que c'est peut-être aussi le côté d'être mis à nu, d'être dans. On contrôle pas forcément son corps à ce moment-là. On fait comme on peut et peut-être que ça vient du contrôle de soi aussi. Je pense parce que je suis quelqu'un qui contrôle assez ma façon d'agir en public et même si je suis moi-même et que je suis quelqu'un de naturel, c'est pas ça. C'est je pense une contrôle de soi aussi. Dans mon quotidien, une des conséquences de cette phobie, c'est d'analyser tout, et même les films et les vidéos. Je sais le film que je vais voir, je sais si c'est propice ou non à ce qu'il y ait une personne qui vomisse. Donc si c'est des jeunes qui font la fête, je sais que c'est possible. Par contre, si c'est plus, je sais pas, un film juridique ou j'en sais rien, je vais être plus sereine. Et après, par rapport à la scène du film... Donc ça m'est déjà arrivé, j'avais été voir un film où justement il y avait une jeune fille qui vomissait dans le film. Je savais que c'était possible à ce moment-là qu'il y ait quelqu'un qui vomisse, donc j'avais déjà mes mains sur mes yeux. mais je regardais à travers. Et du coup, j'étais préparée à me cacher les yeux ou me boucher les oreilles aussi, parce que je me bouche les oreilles, parce qu'il y a le bruit aussi qui est important. Et donc, c'est pour ça que je suis dans... Enfin, c'est une analyse tout le temps, donc c'est aussi un peu fatigant. C'est tout le temps, on analyse ce qui va se passer, ce qui peut se passer, s'il y a une scène propice ou non. Et je me suis encore jamais fait avoir.
Peur numéro 53.
Ma mère m'a dit que si je prenais l'escalator avec mes lacets défaits, il les attraperait et m'aspirerait. Elle m'a raconté que tous les agents de sécurité du centre commercial étaient des enfants qui avaient été aspirés par l'escalator et devaient rester là à jamais.
Depuis toujours, j'ai peur de tout. C'est clair, j'ai peur de tout. Depuis toujours, j'ai peur du noir. Ben oui, j'ai peur du noir. Même en plein jour, j'allume mes phares. Je dors entouré de bougeoirs. J'ai des veilleuses plein le plumard. Depuis toujours, j'ai peur des gens. C'est vrai, j'ai peur des gens. Ils me regardent étrangement quand je fais mes courses en rampant une sarbacane entre les dents. Depuis toujours, j'ai peur de l'avion. Voilà, j'ai peur de l'avion. Je monte les marches à reculons. J'attrape l'hôtesse par le chignon pour qu'elle me donne l'extrême onction. Depuis toujours, j'ai peur de l'eau. En plus, j'ai peur de l'eau. J'ai des flotteurs dans le maillot, j'arrache leur bruit aux marmots et je m'accroche au pédalo. Depuis toujours, j'ai peur de tout. C'est clair, j'ai peur de tout.
C'était Phobie. Avec Jérôme, Climène, Solène, Richard, Fanny, Corinne et Aurélie. Merci à Valérie et Alicia. Avec également le docteur Jean-Charles Pascal, psychiatre, et Marie-Claude Dantan, psychologue. Extrait de Peur bleue et humour noir de Franz Krause, édition Cambourakis.
En plus, j'ai peur du vide.
Extrait également de Vertigo d'Alfred Hitchcock.
J'ai la nausée, ça me rend humide, chaque fois j'ai des pensées morbides. Depuis toujours, je suis claustro, c'est sûr, je suis claustro.
Attaché d'émission, Christine Bernard, Alison Sinard. Coordination, Irène Omelianenko. Un documentaire de Fabienne Lemonnier, Léa Chevrier et François Test pour Sur les Docs.
Quand j'étais petite, ma mère me disait
ne lui cause pas,
elle a des poules,
ne l'approche pas,
il a pas de sous,
après là-bas, ils sont tous fous,
n'écoute pas,
j'appelle le loup. Tu sais qu'il y a du danger partout, c'est clair, j'ai peur de tout. Depuis toujours, 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 j'ai peur de tout.
Voilà, et si vous n'avez pas peur de réécouter ce documentaire, il n'y a pas de raison d'avoir peur, eh bien je vous donne l'adresse comme chaque jour, c'est franceculture.fr à la page de Sur les Docs. Sur cette page également, vous pouvez télécharger cette émission.